Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients vont bien.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzels.
Oh, bonne mère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why am cooking so good?
De la farine, du sel, de l'eau et de la levure ou du levain. Je crois que c'est ça que j'aime le plus avec le pain. C'est un aliment simple, un truc qui nécessite moins de 5 ingrédients et que tout le monde aime. Une préparation qui trouve sa place à la table de toutes les classes sociales. Le pain a une véritable place dans la vie quotidienne et on a vraiment l'habitude de l'acheter tout fait. C'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on ferait son pain soi-même alors qu'il est si simple et peu cher de l'acheter tel quel ? Et pourtant, à l'heure de la rapidité et de l'instantanéité généralisée, fabriquer sa propre miche, c'est un peu l'éloge de la lenteur. Et si autant de personnes s'intéressent tout à coup à la boulange maison, c'est aussi parce que notre époque actuelle valorise beaucoup la réflexion sur la traçabilité des produits, le retour à des valeurs refuges telles que le terroir et les recettes authentiques, ainsi que les activités allant à contre-courant d'un monde qui va trop vite. Il y a un réel alignement des astres pour que l'art de faire son pain soi-même soit une tendance culinaire. À ce propos, je suis heureuse de vous annoncer la naissance de Jérém, petit rayon de soleil entré dans ma vie il y a maintenant 10 jours. Jérém pèse environ 200 grammes et il est né au terme de plusieurs jours de travail. Jérém, c'est mon levain chef. C'est à partir de lui que je fais, ou plutôt que j'essaye, de faire un pain maison digne de ce nom. Je parle de Jérém au singulier parce que c'est plus simple de le personnifier. En réalité, Jérém est à lui tout seul une colonie de levures et de bactéries lactiques. Reprenons depuis le début. Pour faire du pain, on a dit qu'il fallait de la farine, du sel, de l'eau et un ingrédient pour faire fermenter le pain et donc le lever. Cet ingrédient, ça peut être soit de la levure industrielle, le truc déshydraté que tout le monde connaît, soit, et c'est là qu'on en revient à Jérém, du levain naturel, une pâte humide et vivante. L'avantage du levain, c'est qu'il donne un pain plus digeste parce que sa fermentation est lente, contrairement à la levure classique qui, elle, génère une fermentation rapide. C'est donc un pain meilleur pour la santé qu'on obtient avec du levain naturel, mais aussi un pain qui développe des arômes plus subtils, un peu noisette, un peu aigre, et en plus c'est aussi un pain qui se conserve plus longtemps. Faire son levain naturel, c'est se lancer dans une super aventure d'observation scientifique, un truc hyper accessible à la « c'est pas sorcier ». Pour démarrer Jérém, il ne m'a pas fallu grand-chose, un bocal propre, de l'eau et de la farine. On mélange en respectant les proportions et on laisse reposer 24 heures. Ensuite, il se passe un truc fascinant à observer quand on ouvre le bocal. Des petites bulles commencent à se former en haut de la préparation. C'est le levain qui prend vie. En gros, les bactéries et les levures du levain se nourrissent des sucres contenus dans la farine. Et en faisant cela, ils produisent du CO2. C'est ce procédé qui va permettre de faire lever la pâte quand on l'utilisera pour faire du pain. À partir de ce moment-là, il faudra régulièrement nourrir le levain afin de le faire grossir pour qu'il soit assez d'attaque pour être utilisé. On dit « nourrir » pour aller vite, mais en fait, dans le langage boulanger, on dit plutôt « rafraîchir son levain ». Le but est d'obtenir, au bout de plusieurs jours, un levain tonique, assez puissant pour aider à la pousse d'un pain. Ce qui est drôle aussi, c'est que chaque levain est différent. Par exemple, Jérém n'a eu aucun souci à bien démarrer. En revanche, sa croissance a connu un ou deux jours de palier. Ce gros paresseux s'était mis en mode ado à la Riyad Satouf, à manger des frosties dans le canapé sans jamais vouloir débarrasser la table. Du coup, j'ai fait comme tous les parents désœuvrés, j'ai parlé à d'autres parents pour avoir des recommandations. Ça tombe bien, comme la journaliste Lucie Ronfaux l'explique bien dans un article du Figaro, les internautes qui font du pain forment une véritable communauté, vraiment basée sur la solidarité et l'entraide. J'ai facilement pu trouver des conseils pour booster Jérém, et la recommandation qui a le plus marché, c'est la suivante. Lui faire sauter un repas pour affamer ce gros flemmard et l'obliger à se ruer sur le second. Ça a totalement marché. Même si ça m'a déchiré le cœur de laisser passer 24 heures sans le nourrir parce que, waouh, j'étais bel et bien en train de devenir mère poule. Il y a aussi la méthode miel ou sucre. L'idée, c'est de lui en donner un peu pour lui offrir un shot de bouffe, même si certains puristes se diraient que c'est un peu de la triche. Bref, j'ai passé tellement de temps à me soucier de Jérém qu'au bout d'une semaine, mon copain en était devenu un peu jaloux. Il m'a même lâché un soir « Je crois que tu t'occupes plus de Jérém que de moi ». Le coup de grâce pour lui, c'est le jour où j'ai voulu mettre Jérém dans un endroit sans courant d'air et près d'une chaleur douce pour qu'il grandisse plus vite. En gros, j'ai suivi la technique conseillée qui consiste à mettre le bocal de levain sur la freebox pour le réchauffer un peu. Et Jérém a tellement kiffé qu'il a doublé de volume jusqu'à déborder de partout. Vous voyez les mots qui sont gravés sur le plastique de la freebox? J'ai dû prendre une grosse éponge pour nettoyer toutes les traces que Jérém avait laissées jusqu'à rendre les lettres apparentes. Mon copain est arrivé au même moment dans la pièce et il a secoué la tête de désespoir. Dans cet épisode consacré au fait de faire son pain soi-même, je donne la parole à Oui, une blogueuse passionnée de cuisine qui partage régulièrement des recettes. Owi nous a raconté comment elle s'est mise à boulanger en amatrice et à quel point la communauté des boulangers sur Internet est hyper sympa.
Des gens qui ont une vraie disponibilité, une vraie bienveillance, et que ça, ça fait du bien, vraiment. Et c'est pas un contexte qui a à voir avec de la compétition. C'est quelque chose qui me met du paume au cœur. Je vois comment cette communauté-là fonctionne.
Mais d'abord, j'ai reçu Marie-Laure Fréchet, une journaliste gastronomique qui vit à Lille et vient de sortir une encyclopédie du pain maison chez Flammarion. Dans cet ouvrage très pédago, celle qui a également cofondé le festival Mange Lille a rencontré plein d'artisans de la boulangerie et synthétisé la littérature historique qui existe à ce propos. À notre micro, elle explique les différentes étapes de la fabrication du pain. J'ai commencé par lui poser une question simple. C'est quoi au juste un bon pain ?
Je crois que chacun a son pain, en fait, et toutes les cultures, puisque le pain, on le retrouve un peu partout dans le monde. Un bon pain, c'est voilà, d'abord un pain qui ne fait pas de mal, un pain qui a été fait avec des bonnes farines et avec un processus de fermentation voilà, qui permet à ce pain d'être bien digéré.
Et gustativement, quels sont vos critères à vous ?
Moi, personnellement, oui, j'aime bien une belle croûte, quelque chose qui craque sous la dent. Et j'aime une mie qui soit un peu, qui soit humide, voilà, assez alvéolée. J'aime aussi une mie qui sent bon. Moi, souvent, au restaurant ou quand j'achète un pain chez un boulanger, spontanément, quand j'ai un morceau de pain, je le sens. Et j'aime sentir la céréale, j'aime sentir voilà, ce que ce pain sent, justement.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre en sentant un aliment avant même de le manger et avant même d'en analyser le goût et la consistance.
Mais c'est sûr que voilà, un pain, comme je le dis, ça a une odeur, mais ça aussi, a aussi du bruit quand on le coupe. Voilà, ça fait un joli bruit quand la croûte se casse. On peut simplement le mettre à l'oreille. Et puis, un pain, ça fait aussi ça chante, hein, ça fait du bruit quand on le sort du four. Donc voilà, c'est tout ça. Il faut le goûter avec tous les sens, en fait, un pain.
Alors, il paraît que le goût des gens pour le pain, il a beaucoup évolué cette dernière décennie. Les boulangers et les boulangères racontent souvent qu'on leur demande de plus en plus du pain pas trop cuit, s'il vous plaît. Et que ça les désespère parce que, en gros, avec les produits de l'industrie agroalimentaire, genre toutes les marques de pain de mie et le pain vendu en grande surface, on a été habitué à manger du facile à manger, du mou, du facile à mâcher et du pas trop cuit, en somme. Et tout ça, ce serait en partie donc la faute des hypermarchés qui ont leur boulangerie sur place et qui se targuent d'envoyer plusieurs fournées par jour. Résultat, on a du pain qu'on laisse pas trop dorer au four parce qu'il faut vite les sortir en rayon pour en cuire d'autres. Et c'est ce pain tout mou qui, au fil des années, aurait fini par amadouer nos palais fatigués, en fait, à la recherche d'un peu de réconfort quand la vie, elle est pas rose tous les jours.
Je sais pas. Enfin, il y a eu une évolution générale du goût vers des choses plus molles, plus sucrées. Voilà, enfin, ce qui est la nourriture industrielle, voilà, c'est un peu son essence, quoi, d'avoir des aliments mous, un peu, voilà, avec des goûts consensuels. Quand on fait effectivement son pain à la maison, ou quand on achète un vrai pain chez un artisan, un pain, ça a une croûte, oui. Et en plus, c'est important pour nous, êtres humains, d'avoir de consommer une nourriture qui craque, qui a de la mâche. Ça a un sens biologique. Ça fait saliver et ça enclenche un processus de digestion. Voilà, toutes les étapes de la digestion sont importantes et elles commencent dans la bouche en croquant. Enfin, si on a des dents, c'est fait effectivement pour mâcher, pas pour avaler tout rond un pain ou une alimentation insipide. Alors, je sais bien que dans les années à venir, les prochaines décennies, on nous promet qu'on appellera peut-être une gélule pour se nourrir, mais il n'y a rien de plus horrible. Et si c'est ça, voilà, notre organisme va en pâtir. Donc oui, un vrai pain avec une vraie croûte, ça contribue aussi à une bonne alimentation.
Dans votre encyclopédie, vous donnez plein de conseils pour faire son pain soi-même, le tout dans une grande entreprise de démystification de la boulange. Est-ce que vous pouvez nous décrire les étapes de fabrication d'un pain ?
Alors, évidemment, moi, dans le livre, je mets en avant plutôt le pain au levain, parce que c'est lui qui, du point de vue nutritif et du point de vue gustatif, est le plus intéressant. Donc, j'explique que la première étape, c'est de faire son levain. On peut, si on veut gagner une semaine, on va dire, ou si on ne veut pas se lancer dans la réalisation du levain, on peut aller voir son boulanger ou un ami ou une amie qui fait déjà son pain, on peut lui demander de nous donner un petit bout de levain pour démarrer. Mais voilà, la première étape, c'est de faire naître ce levain. Qu'est-ce qu'un levain ? Alors, un levain, c'est une pâte, tout simplement constituée d'eau et de farine, qui est en fait un petit élevage de levures et de bactéries lactiques. Voilà, un peu comme un kéfir ou un kombucha dont on on entend beaucoup parler. Là, c'est la même chose. On va avoir ce petit élevage maison chez soi dans un petit pot.
C'est vivant, donc.
C'est complètement vivant, voilà, qu'on va nourrir régulièrement et qui va, en fait, permettre de fermenter la pâte à pain. Voilà. Donc, ça marche un peu comme le petit cube de levure ou le petit sachet de levure déshydraté qu'on a à la maison. Sauf que dans la levure, il n'y a que des levures. Là, dans un levain, on a d'autres micro-organismes qui sont donc des bactéries lactiques qui vont permettre d'engendrer un autre type de fermentation. Et donc, comme je le disais, c'est intéressant puisque ces bactéries lactiques vont permettre de prédigérer le gluten. On va peut-être parler après du fameux gluten et développer aussi des arômes très intéressants. Donc voilà, donc ça, c'est la première étape. On fait son levain. Et puis après, donc voilà, quand on commence à faire son pain, on repart toujours de ce levain parce que, à la différence de la levure, quand on a son petit cube de levure, ben, il suffit d'incorporer la pâte. Là, le levain, il faut en fait, c'est un peu comme un sportif. Donc le sportif, il s'entraîne toute l'année, ok, il a des muscles, mais le jour où il doit courir le marathon, il sort pas de chez lui et il se met pas à courir le marathon. Il doit s'échauffer. Donc là, notre levain, avant de le mettre dans la pâte, on va le rafraîchir. Donc, on lui redonne à manger de la farine et de l'eau. On laisse reposer tout ça 3-4 heures. Il se met à buller. Donc là, il est prêt à courir son marathon. Et là, on va l'incorporer tout simplement à de la farine et de l'eau. Ça, c'est la recette de base. Après, on peut faire des pains dans lesquels on ajoute des choses, du miel, des fruits secs, enfin, toutes sortes de choses. Et puis, voilà. Donc, on va simplement pétrir sa pâte. Il y a un temps de fermentation, bien sûr. Donc, moi, je recommande dans l'ouvrage ce qu'on appelle la fermentation à froid. Ça veut dire qu'on va le laisser reposer entre 14 et 18, voire 24 heures au frais, au frigo. Voilà. Puis on le sort du froid, on le laisse revenir à température, on le façonne, ça veut dire qu'on le met en boule. Il repose dans un baneton, donc là c'est un petit panier, et puis on le cuit. Et ensuite, il y a quand même une dernière étape, on ne mange jamais un pain chaud, on le laisse reposer, resuer, on appelle ça. Et là, on peut déguster son pain.
Alors ça, c'est une étape que je trouve particulièrement difficile. Quand on sort son pain maison, on a tout de suite envie de voir le résultat et de couper pour regarder comment il a mis. Il faut vraiment être capable de se retenir.
Il y a encore d'autres arômes qui vont se développer parce que la vapeur d'eau doit s'évacuer. Et puis, accessoirement, c'est très compliqué de couper un pain chaud. On l'abîme beaucoup, donc c'est important de le laisser reposer.
C'est un peu l'expérience de la patience, en fait.
Oui, c'est de la patience. C'est aussi, on va le mettre d'un côté plus positif, le présenter de façon plus positive. C'est aussi se réapproprier un certain sens du temps parce que dans nos vies, on est tous actifs. On court beaucoup. Faire du pain, moi je dis souvent que c'est mon yoga. Voilà, c'est un moment où on s'arrête et on mesure le temps. Et alors, je corrige tout de suite. Souvent on me dit, ah oui, mais faire du pain, ça prend beaucoup de temps. Non, ça dure longtemps. Voilà, ça dure. C'est un cycle de 24 heures dans lequel il y a beaucoup de temps de repos. Alors, on peut se reposer en même temps que le pain, hein, mais on peut aussi mener sa vraie vie. Mais globalement, c'est 3 fois 10 minutes où on a vraiment les mains dans la pâte. Et le reste du temps, voilà, le pain travaille tout seul, la fermentation se passe tout seul. Donc ça dure longtemps, certes, mais ça prend pas beaucoup de temps.
Ouais, donc 3 fois 10 minutes d'action et ensuite c'est le temps qui fait son travail.
Voilà, exactement, le temps qui est un ingrédient.
Ça me fait penser à ce livre qui s'appelle The Missing Ingredient et qui rappelle que pour certaines recettes, on a beau rassembler les meilleurs ingrédients du monde, bah il y a souvent un ingrédient qui va venir tout sublimer et cet ingrédient, c'est le temps. Donc, faut faire, quand on veut faire mijoter quelque chose, laisser reposer une marinade, finalement, on peut vouloir cuisiner rapidement et ça marchera si on rassemble vraiment de beaux ingrédients ensemble. Mais pour certains plats, il faut forcément utiliser cette denrée devenue rare qui est le temps.
Exactement. Et ce qui se passe avec le pain d'aujourd'hui, c'est que justement, on a voulu gagner beaucoup de temps à tous les niveaux, enfin au niveau de l'agriculture, de la céréale, etc. Et au niveau effectivement de la boulangerie, hein, on vous promet des baguettes chaudes en 3 heures. Forcément, c'est moins bien.
Alors aujourd'hui, pourquoi encourager les gens à faire leur pain eux-mêmes ?
Oh, il y a plusieurs raisons. Donc la première, c'est comme je le disais, de retrouver un pain qui fait du bien, parce qu'il y a beaucoup de pains, donc effectivement, qu'on trouve dans le commerce. On va dire les pains industriels, hein, pour fâcher personne. Voilà, qui sont des pains qui vont pas forcément vous faire du mal, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous faire du bien. Donc, quand on fait son pain, effectivement, on va choisir ses farines. On va choisir, je pense que c'est la base, des farines bio. Si possible, des farines de blé ancien. Voilà, qui vont vous apporter voilà des qualités nutritives plus intéressantes que les blés modernes et des farines aussi qui vont être mieux digérées. Et puis voilà, c'est renoué aussi. Enfin, à la maison, on fait la cuisine, on fait des gâteaux et faire du pain, c'est un peu voilà, c'est un peu dans la logique. Même si ça reste voilà, c'est toujours un peu magique quand on dit qu'on fait son pain. Quand on dit qu'on fait son pain, c'est pas la même chose que de dire qu'on a fait une tarte aux pommes. Ça reste un peu magique, mais voilà, c'est tout à fait faisable.
J'ai entendu parler d'un argument écologique aussi qui faisait remarquer que le fait de faire son pain à la maison, autrement dit préchauffer un four avec une cocotte vide dedans, puis enfourner juste un pain, eh ben c'est plus énergivore que d'aller à la boulangerie acheter un pain qui a cuit avec plein d'autres.
J'en ai pas entendu parler, donc c'est sûr qu'effectivement quand on allume son four et qu'on fait cuire un seul pain, on pourrait dire que ça consomme de l'énergie, certes, mais enfin quand on cuit n'importe quoi, une tarte aux pommes, une quiche, un rôti, c'est un peu la même chose. On pourrait dire, bah voilà, une fois qu'on a cuit son pain, ou on peut en cuire deux d'ailleurs, hein, en même temps, une fois que le four est chaud, on peut l'utiliser pour autre chose. Moi là-dessus, voilà, j'ai pas de position et à ce tarif-là, à ce moment-là, on cuisine plus, quoi. En revanche, moi, je dirais que d'une certaine façon, on jette beaucoup moins de pain quand on fait son pain. Parce qu'on fait un pain, notamment effectivement un pain au levain, c'est un pain qui se conserve beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps, au moins 3-4 jours. Et alors, quand on achète une baguette, le lendemain, elle est sèche et on a tendance à se débarrasser du pain sec. Voilà, donc la baguette, elle est faite pour être mangée fraîche. Et quand il en reste, malheureusement... ou à moins de valoriser, il y a des tas de choses à faire avec du pain sec, hein, on en parle d'ailleurs dans le livre, des petits croûtons, enfin, voilà, on peut faire plein de choses, mais généralement, cette demi-baguette sèche, elle part à la poubelle. Alors qu'un pain au levain, voilà, ça va rester plus moelleux, et ça ne va jamais se gâter, parce que grâce aux propriétés du levain, on a un pain qui est acide, et cette acidité permet de conserver le pain. Voilà, on va moins gaspiller en tout cas.
Petite question technique, qu'est-ce qui se passe quand un pain pousse exactement? En quoi la levure ou le levain va faire gonfler un pain?
Alors d'abord, c'est une rencontre entre deux ingrédients, entre l'eau et la farine. Dans la farine, donc, il y a du gluten. Voilà, le gluten, c'est un réseau en fait. C'est un réseau, on va dire globalement, pour résumer, un peu élastique, un peu comme un chewing-gum en fait. Gluten, c'est la même étymologie que glu, voilà. Donc, enfin voilà, je trouve que c'est plus parlant de dire un chewing-gum. Et donc ce réseau, il va, hein, donc il se crée de cette rencontre entre l'eau et la farine. Hein, c'est une réaction chimique. Et ce qu'on apporte avec le levain ou avec une levure, c'est un ferment. Cette fermentation, elle dégage du gaz carbonique. Et donc, en fait, quand le gaz carbonique se dégage, il est emprisonné dans ce réseau élastique qu'est le gluten. Et ça fait donc des bulles, mais comme il est emprisonné, ça crée les alvéoles du pain. Voilà. Et donc, en gonflant, ça fait gonfler donc, le pain. Et donc, c'est pour ça que le pain va pousser.
J'adore ce verbe « pousser ».
Va se développer.
Mais avec le verbe « pousser », on comprend vraiment qu'il y a quelque chose dans la fermentation du pain qui n'a pas besoin de nous. C'est vraiment lui qui va travailler tout seul, un peu comme s'il était une entité capable d'évoluer lui-même.
Mais c'est ça qui était intéressant, parce que quand on fait du pain, on travaille avec du vivant. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, des levures, des bactéries lactiques qui vont vivre leur vie pendant le cycle du pain, donc elles vont mourir pendant la cuisson évidemment, mais ça effectivement c'est tout un art de les maîtriser ou de les apprivoiser. Voilà, la boulangerie c'est technique, mais c'est surtout beaucoup de sensibilité. Voilà, pour sentir cette pâte et connaître le juste moment où elle est suffisamment fermentée, le moment où il faut la mettre au four.
Avez-vous des conseils à donner aux gens qui aimeraient se lancer dans la boulange maison? Quelles sont les erreurs les plus souvent faites et du coup, c'est quoi les astuces?
Le plus compliqué, c'est peut-être la cuisson, parce que souvent, on accuse son four en disant « mais mon four, il est pourri, ça marche pas ». Franchement, la première chose à faire, c'est d'utiliser la cuisson en cocotte. Voilà, avec une cocotte en fonte, hein, on va pas citer de marque, ça marche super bien. Alors c'est peut-être moins glorieux de voir son pain pousser dans le four, enfin son time lapse, hein, non. Mais vraiment ça marche super bien et ça corrige les défauts d'un four ménager par rapport au four professionnel qui cuit par le fond, enfin voilà, avec une sole qui a une inertie thermique très forte que nous on n'a pas dans nos fours ménagers. Donc voilà, mon premier conseil. Cuisez vos pains dans des cocottes. Donc, le petit truc, c'est que cette cocotte, on la met chauffée hein, en même temps que son four. Elle doit être chaude avec le couvercle. On enfourne le pain dans la cocotte chaude avec le couvercle. Au bout de 20 minutes, on enlève le couvercle. Et là, on a la surprise de voir que son pain a bien gonflé. Donc là, déjà, on est bien rassuré. Puis après, on lui laisse 20 minutes de plus pour qu'il colore. Et ça, franchement, voilà, ça, c'est un vrai truc. Et ça marche bien, très, très bien.
Et au niveau du pétrissage, est-ce qu'il y a des trucs à savoir?
Le pétrissage, donc effectivement, on peut pétrir à la main ou au batteur, hein, style KitchenAid. Là, je vais dire une marque. Il y a des petits trucs que je développe dans le livre, ce qu'on appelle le test du voile, qui permet de voir si, effectivement, on commence déjà à avoir un beau réseau. Bon, ça, on apprend ça très facilement.
Le test du voile, c'est donc, on prend la pâte et...
Voilà, on prend la pâte et on l'étire légèrement. Et bon, si elle se déchire, c'est que le réseau gluténique, il ne s'est pas formé. Donc, il faut ou repétrir un petit peu, et ou d'ailleurs, ou la laisser en reposer aussi, parce que le réseau, il se forme aussi pendant le temps de repos, pendant la fermentation. Et puis, le réseau idéal, c'est que quand il est vraiment complètement développé, ça fait comme un voile translucide, en fait.
La parole de Marie-Laure Fréchet est une véritable ode à la boulange maison. Il y a un gros potentiel pour surprendre ses proches et leur faire plaisir. C'est vrai ça, tout le monde aime le pain. Quand on y pense, cet aliment est un vrai trait d'union culinaire qui nous rassemble encore toutes et tous. D'ailleurs, dans une émission de radio sur la gentrification, quelqu'un faisait remarquer que les boulangeries de quartier sont aujourd'hui les rares endroits où l'on voit vraiment les retraités, les cols blancs, les cols bleus, les gens au chômage, les jeunes, bref, plein de gens différents se croiser. Dans certains coins de France, c'est encore le cas de quelques rades à l'ambiance conviviale, souvent portées par un tenancier ou une tenancière charismatique et une poignée de joyeux lurons d'habitués, mais ces endroits sont malheureusement de plus en plus rares. Pour autant, trouver du bon pain, ce n'est pas possible partout. Et c'est entre autres parce que Owi était frustrée de ne pas trouver de bonne boulangerie à côté de chez elle à Bruxelles qu'elle s'est mise à boulanger à domicile. Je lui ai d'abord demandé à quel moment de sa vie lui est venue l'idée de faire son pain elle-même.
Eh bien, ça date de l'époque où je n'avais absolument pas le temps de rien et certainement pas de cuisiner parce que je m'occupais de deux petits bébés et d'un plus grand. C'est typiquement une période de la vie où on a à peine le temps de manger, de s'asseoir et alors certainement pas de faire du pain. Par contre, j'avais beaucoup de temps de rêver et j'ai commencé à rêver à tout ce que j'allais bien pouvoir mijoter quand... Voilà, un jour, j'aurai enfin le temps de me retrouver dans ma cuisine et le pain en faisait partie. Et ça m'a trotté dans la tête pendant longtemps, avec à la fois un côté un peu intimidant et inaccessible, mais en même temps une curiosité, un peu comme un défi. Et si j'essayais un jour, au pire ça marche pas, au pire c'est pas bon. Et voilà, un jour j'ai trouvé une recette qui m'a parlé, qui était suffisamment simple pour me dire oui c'est possible et pour sauter le pas.
Donc vous avez employé le mot défi, faire son pain soi-même c'est donc un défi.
Je pense que ce qui en fait un défi c'est un petit peu toute l'aura qui est mise autour actuellement dans notre culture. Où finalement, ce qui est beaucoup transmis, c'est l'idée que c'est un domaine réservé. C'est le domaine, c'est un domaine professionnel, c'est le domaine du boulanger. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se libérer à l'intérieur de nous, de dire « mais moi aussi, je peux en faire finalement du pain ». Je pense que ça tient aussi à cette culture de la compétition qui est horreur de l'échec, qui fait que se lancer dans quelque chose d'inconnu, ça peut vite paralyser. On se sent petit, légitime. On se dit qu'on va se ramasser, qu'on va jeter un kilo de farine à la poubelle, que ça va pas marcher. D'autant plus que quand on commence à se renseigner, il y a une jungle d'informations contradictoires simplement parce qu'il y a 1000 façons différentes de faire du pain. Donc, quand on débute, il y a de quoi se sentir perdu et prendre ses jambes à son cou. Et donc, on se retrouve entre des recettes qui ont l'air très simples, mais souvent parce qu'il manque des informations qui seraient bien utiles. Et d'autres qui ont l'air d'être carrément dans une langue étrangère. On a l'impression que d'être tombé dans le dark web.
Donc le défi, c'est le côté aussi, se dire, tiens, je vais faire mon pain moi-même, alors que c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude d'acheter tout fait. Un peu partout, on descend, on donne une pièce de 2 euros, on a une baguette, on nous rend la monnaie. Enfin, du coup, ça demande de penser un peu... en dehors des clous, que de s'imaginer qu'en fait, on peut faire ça à la maison.
Et c'est pour ça que je pense que ceux qui sont le plus motivés, c'est ceux qui n'ont pas de boulanger à côté de chez eux ou qui vraiment n'en peuvent plus du pain industriel et qui ont envie de d'y mettre du leur et de manger un pain qui leur fait vraiment plaisir. Alors, je pense que ça, c'est un moteur très, très important pour se lancer. Et sinon, c'est vrai que si on a une super boulangerie au coin de la rue, voilà, c'est sans doute pas la première pensée qui vient en tête. Je pense que c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a un tel mouvement aujourd'hui autour du pain au levain. C'est que c'est parfois très, très difficile là-bas de trouver du pain à son goût.
Et donc, c'était votre motivation aussi, première, de faire un pain meilleur que celui que vous pouviez trouver là où vous habitez?
Oui, je pense que j'étais fatiguée de pain un petit peu triste comme ça, de pain qui manquait de caractère et j'avais envie de fantaisie, je pense, et vraiment de goût.
Vous habitez Bruxelles donc, et il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée avec cette ville, c'est que c'est pas si loin de la frontière française et pour autant le pain est vraiment très différent de celui qu'on va trouver dans une boulangerie à Lille, par exemple.
C'est vrai que c'est pas pour rien que les Belges aiment bien en France aller acheter leur pain. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes boulangeries en France. Il y en a aussi à Bruxelles. Voilà, il faut être dans un coin qui est bien fourni de ce côté-là.
Oui. Et alors, par où avez-vous commencé? Quand vous vous êtes dit, tiens, je vais faire mon pain moi-même.
Alors, j'ai commencé trop compliqué, comme on fait souvent, avec des farines particulières, avec des méthodes qui, finalement, ne sont pas les plus simples. Parce que quand on se lance, on a un petit peu envie de toucher à tout, de tout essayer. Alors que, dans l'idéal, si on veut apprendre et aller pas à pas, c'est toujours bien de commencer au plus simple, c'est-à-dire avec des farines blanches qui sont les plus faciles à maîtriser pour pouvoir se construire ses repères petit à petit. J'ai appris en ratant. Et quand je dis en ratant, ça ne veut pas dire qu'on va mettre le pain à la poubelle, loin de là. Le pain maison sera toujours, la plupart du temps, meilleur qu'un pain industriel. Maintenant, on a une marge d'apprentissage et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est gai, c'est qu'on expérimente et que par la répétition, on va progresser. Maintenant, on croit souvent, parce que c'est un petit peu ça le message qu'on nous fait passer, que c'est compliqué de faire du pain, alors qu'en fait, c'est très, très simple. Mais pour que ça soit simple, pour faire du bon pain, on doit avoir les clés en main. On doit avoir les clés pour savoir ce qui est important ou pas. On doit avoir les clés pour comprendre une recette et comprendre ce qu'on fait plutôt que de simplement reproduire des instructions. Il y a des articles sur Internet, vraiment, bêtement. Et ça a cheminé pendant longtemps avec des arrêts, des reprises, la rencontre avec le levain aussi, qui a été important pour moi, qui a été une autre curiosité, un autre défi. Le levain, c'est quelque chose dont tu prends soin, que tu nourris, que tu apprends à connaître. Je dis souvent, c'est un petit peu comme apprendre à connaître les marées. Il faut savoir à quel moment tu vas le rencontrer pour l'utiliser au moment où il est au top de sa forme pour lancer un pain. Ça a l'air très, très compliqué de l'extérieur quand on ne l'a pas fait. Et quand on est dedans, en fait, c'est extrêmement simple.
J'ai l'impression que ce qui est très sympa avec le levain, c'est ce qui va rendre le pain vivant, un peu comme quand on fait du vin finalement. C'est qu'à la rencontre entre la personne qui fait, il y a ensuite la matière première qui va évoluer selon le contexte, et puis le résultat final qui pourrait toujours surprendre.
Oui, je pense que ça fait partie du côté fascinant de faire son pain soi-même, parce qu'il y a toujours une surprise en fait. Un pain n'est jamais l'autre. Et d'ailleurs, c'est toujours étonnant, même les gens qui, avec la même pâte, cuise en même temps plusieurs pains, aucun pain ne ressemble exactement à l'autre. Ça ne sera pas exactement la même croûte, ça ne sera pas exactement la même mie, parce que, voilà, on va les manipuler de manière un peu différente, les façonner de manière un peu différente. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui, je pense, même pour des gens qui sont des vieux baroudeurs de la boulange, quelque chose qui reste toujours du côté du plaisir, de l'étonnement. Et ça, c'est, je pense, c'est un côté un petit peu enfantin, comme ça, qui est vraiment gai à vivre et à insuffler dans ta vie au quotidien.
C'est très différent d'un gâteau au yaourt, finalement, dont on peut dire qu'a priori, le résultat va être souvent reproductible.
Oui, oui, parce que c'est vrai qu'ici, on a affaire avec du vivant et que selon aussi les conditions dans lesquelles tu réalises ton pain, il va évoluer d'une manière différente. Ton levain n'est jamais le même. Il grandit, il prend de la force, son goût évolue selon comment tu le nourris. Et même pour des pains à la levure, je pense qu'il y a quelque chose où, dans le bon sens du terme, on ne s'habitue pas. Il y a toujours quelque chose de frais quand on sort un pain du four.
Donc il y a une somme de critères qui va nous permettre d'avoir à chaque fois un pain différent. J'imagine la température de la pièce, le levain, comme tu viens de dire, le temps de pose, la façon de pétrir. Ce sont différents leviers en fait sur le résultat final.
Oui, et je pense que c'est ça qui manque souvent comme outil de compréhension quand on se lance dans la boulange, c'est que les recettes disent « laissez pousser pendant 2 heures ». Mais 2 heures, c'est peut-être beaucoup trop si tes ingrédients sont à bonne température et que tu as utilisé de l'eau qui est relativement tiède et qui fait chaud chez toi. 2 heures, c'est peut-être vraiment pas assez. Si au contraire, cette fois-là, ton levain n'est pas en forme, si la pièce est froide, si. Et les Anglais disent « ice on the dough, not on the clock ». Donc, il faut vraiment apprendre à connaître la pâte, les yeux doivent être sur la pâte et pas sur l'horloge. L'horloge ne te dit rien, ça n'est pas une valeur absolue, c'est une référence, simplement. Et donc, le plus important, c'est arriver à acquérir les repères pour sentir, dans tous les sens du terme, voir, toucher, vraiment avoir le feeling de quand ta pâte est prête. Et ça, il n'y a que toi qui vas le développer petit à petit, à force d'expérience. Et l'autre outil, c'est effectivement à ce moment-là la température, puisque le chaud va booster la fermentation, le froid va la ralentir. Et donc, ça, le savoir, ça va te permettre de beaucoup mieux t'organiser. Ça va te permettre aussi de ne pas, la première fois, te dire... décidément, la boulange, c'est pas pour moi. Ça fait 2 heures, ma pâte n'a pas bougé. Je jette tout à la poubelle et on n'y reprendra plus. Ça te donne vraiment une jauge. C'est un petit peu comme une boussole, vraiment pour te diriger en boulange. Et avec cette notion à la fois de la température et de ce timing très relatif, parce que c'est pas toi qui décides, c'est la pâte. Ce que tu peux faire, c'est la mettre le plus possible dans des conditions où tu peux prévoir à quel rythme elle va pousser. Et donc, je pense qu'il y a aussi une part de lâcher prise dans cette histoire. On n'est pas dans quelque chose qui est strictement reproductible d'une fois à l'autre. Et je pense que ça fait partie du plaisir de l'aventure.
Il y a une photo hyper appétissante que tu as postée d'un pain que tu as réalisé, d'un pain au levain avec de la semoule de blé et des graines de sésame par-dessus. Et on distingue la forme d'une feuille même sur la croûte.
Oui, oui, c'est purement ludique. Hein. Parfois, je vois, c'est au niveau du grignage, c'est le moment où tu vas prendre une lame vraiment aiguisée juste avant la cuisson et tu vas tracer des lignes. Ça a une fonction, c'est-à-dire ça permet à la vapeur de s'échapper, ça permet à ton pain de mieux se développer, ça l'empêche de se déchirer au four, donc ça c'est le côté utile. Mais tu peux le faire aussi d'une manière fantaisiste pour rendre ton pain beau. Et puis ben voilà, le beau, c'est toujours bon à prendre aussi.
Tout à l'heure, tu disais que ce qui est d'intéressant, c'est que le résultat n'est jamais le même. Est-ce que tu penses que ça fait partie des choses qui donnent envie à toute cette communauté de boulangers amateurs de faire leur pain ? Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup... ajoute au plaisir. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce regain d'intérêt, cette mode même pour le pain maison ?
Oui, je crois qu'il y a de ça. Il y a l'idée de jamais être arrivé, je pense aussi. Alors, ça peut avoir un côté un petit peu effrayant de se dire, c'est pas comme si à un moment, je vais avoir mon diplôme et je serai arrivé. Voilà, je serai arrivé au résultat. C'est l'idée que c'est presque un chemin de vie finalement. C'est quelque chose qui va se construire petit à petit. Et je pense que c'est ça qui engage aussi les gens là-dedans. L'idée que, voilà, en se serrant les coudes, parce que c'est une chouette communauté pour ça, qui se soutient avec des gens qui sont devant, des gens qui sont derrière et qui se guident les uns les autres. L'idée que... rien n'est jamais équivalent d'un pain à l'autre et qu'on a toujours à apprendre parce que finalement, c'est un petit peu, c'est la comparaison que j'utilise d'habitude, c'est un petit peu comme quand tu joues d'un instrument. Ici, c'est un instrument vivant.
Oui. Donc, comment est cette communauté alors ? Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés entre les membres de la communauté des boulangers sur Internet ?
Il y a une communauté qui est très, très, très active sur Instagram, notamment, avec beaucoup, beaucoup d'échanges d'informations, avec des gens qui sont vraiment là pour coacher les autres. Et que simplement le fait de suivre ces échanges, ça t'apprend. Et que c'est des gens qui ont une vraie disponibilité, une vraie bienveillance, et que ça fait du bien. Vraiment, c'est pas un contexte qui a à voir avec de la compétition. C'est quelque chose qui met du paume au cœur. Je vois comment cette communauté-là fonctionne et qui t'aide vraiment à te lancer. Moi, ce sont des gens qui m'ont appris énormément. Énormément parce que j'ai trouvé chez eux des informations qui me manquaient désespérément parce que je butais toujours dans les mêmes ornières et que dans les bouquins, dans les articles où je me perdais entre des informations en veux-tu, en voilà, des 500 commentaires sous les billets, je ne trouvais pas, vraiment pas, des éléments qui pourtant sont hyper cruciaux pour t'aider à avancer. Et ce sont des gens phares de cette communauté qui m'ont mis ces outils en main et vraiment je les remercie.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple alors d'un moment où quelqu'un t'a aidé à débloquer une situation ?
Mais par exemple, je parlais tout à l'heure de l'importance du façonnage. La manière dont tu donnes forme à ton pain avant de le cuire aura vraiment une importance sur la structure de ta pâte, donc la forme, la hauteur, le volume. C'est-à-dire que tu dois la manipuler et en fait tu dois la manipuler de manière très douce et respectueuse, mais aussi suffisamment serré, suffisamment tendu pour que ta pâte garde une forme et ne s'étale pas péniblement comme une crêpe dans toute l'histoire. Et ce sont plusieurs personnes de cette communauté qui m'ont vraiment permis de comprendre les enjeux de ce façonnage. Plutôt qu'avant de faire les gestes de manière mécanique, parce que c'est ce qu'on fait tant qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Et tant qu'on ne saisit pas véritablement à quoi ça sert, mais on ne sait pas mettre la bonne intention dans le geste et on passe à côté.
Les pains de Howy sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils seraient tout à fait crédibles dans une vitrine de boulangerie. Mon premier pain réalisé à partir de mon levain Jérém, lui, n'avait pas cette fière allure. J'ai utilisé la technique de la cocotte pour le cuire et j'ai même suivi le conseil du verre d'eau à jeter au fond du four pour en augmenter l'humidité. Mais le pain que j'ai obtenu n'a pas levé comme une belle boule de pain paysan. Il est sorti plutôt plat. Il était bon, mais plat. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'essayer de faire votre pain vous-même. J'ai hâte de choper le bon tour de main et ensuite de pouvoir expérimenter en faisant différents types de pains, en jouant avec les farines et les temps de pause. Ce que j'aime avec le pain, c'est que c'est une matière infinie. Une préparation de base et à propos de laquelle tout le monde a un avis. Croustillant ou pas trop cuit, mi-dense ou plutôt alvéolé, baguette tradition ou boule campagne, pain blanc ou pain au levain, et même avec ou sans gluten, vous avez sûrement votre préférence. Ou alors, comme moi, vous avez choisi de ne pas choisir. Perso, je n'ai pas vraiment de pain préféré, ça dépend vraiment des situations. Par exemple, je trouve que le must pour faire des tartines de nocciolata, c'est la faluche blanche. Ce pain tout mou en forme de petit béret que l'on trouve dans le nord de la France. Ça fond dans la bouche, on dirait un goûter à l'école primaire. Mais avec du sirop de liège ou du caramel diepois, deux préparations très gourmandes comportant de la pomme cuite, l'une en mélasse, l'autre avec du caramel et du beurre, j'ai besoin que ça croque. Alors je trouve qu'une bonne tranche de pain rustique avec un arrière-goût de noisette, ça marche super bien. Et avec le fromage, j'aime beaucoup la baguette parce que je trouve que sa neutralité marche bien avec un camembert bien fait, autant qu'avec un cantal vieux. J'aime beaucoup aussi les pains d'adultes, c'est comme ça que je les surnomme. Vous savez, les pains de seigle bien allemands, là, rectangulaires, le genre de truc qui donne tout de suite l'impression de faire du bien à son organisme. Ça, je trouve ça cool avec une terrine étalée à l'opinel pendant les randonnées. Ou encore le pain islandais qu'on fait cuire enterré dans un sol proche d'une source chaude. Celui-là a un goût légèrement sucré et on le surnomme pain prout parce qu'il favorise les flatulences. Il y a aussi le pain inspiré de la baguette française que l'on trouve dans le banh mi, le sandwich vietnamien. Allez écouter à ce propos cet épisode pour en savoir plus sur sa préparation, si ce n'est pas déjà fait. Merci à Owi et à Marie-Laure Fréchet de nous avoir donné de leur temps pour parler de l'art de boulanger soi-même. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Lestari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain !